Et l'on débute avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Que s'est-il passé hier à Bayonne? Un homme a tiré sur deux personnes devant la mosquée. Nous ferons le point sur l'attaque. Le maire de la ville déplore un attentat odieux.
Une nouvelle journée de perturbations sur les rails. Seulement un TGV sur trois circulera sur la façade atlantique. La direction de la SNCF espère un retour à la normale d'ici la fin des vacances.
Le feuilleton du Brexit continue. Le Premier ministre britannique Boris Johnson essaiera encore aujourd'hui d'obtenir des élections législatives anticipées en décembre. Hier, la Chambre des communes a rejeté sa proposition. Le patron de Boeing sera entendu aujourd'hui par le Sénat américain. Il devrait reconnaître les erreurs du constructeur aéronautique. Les défaillances du 737 MAX ont provoqué la mort de 346 personnes en Éthiopie et en Indonésie. Et la question du jour, Guillaume?
Eh bien, on va évoquer l'exposition aux écrans. Est-elle forcément toxique? Et nous poserons la question à Grégoire Borst. Il est professeur de psychologie du développement à l'Université Paris-Descartes.
Les Bayonnais sont solidaires de la communauté musulmane, victime d'un attentat aussi lâche qu'odieux. Les mots du maire de Bayonne hier, après l'attaque de la mosquée de sa ville. Un homme de 84 ans a tiré sur deux personnes, les blessant gravement. Il a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Cet homme est un ex-candidat du Front National en 2015, que le parti, rebaptisé Rassemblement National, dit depuis avoir exclu. Il ne cachait pas sa haine des musulmans, Corinne Audouin.
Il est un peu plus de 15 heures lorsque Claude S, 84 ans, s'approche de la porte latérale de la mosquée de Bayonne pour tenter d'y mettre le feu. Interrompu par deux fidèles, il leur tire dessus, incendie un véhicule avant de prendre la fuite au volant de sa voiture. Il ne faudra que quelques minutes à la police pour identifier l'homme grâce à sa plaque d'immatriculation, puis pour l'interpeller. Le retraité est en effet rentré chez lui à 15 km de Bayonne. Inconnu de la police et de la justice, Claude S. avait été candidat aux élections départementales sous l'étiquette du FN en 2015. Le mobile islamophobe semble à ce stade le plus probable. En 2014, sur Facebook, Claude S. avait affiché son soutien au polémiste Éric Zemmour dans un texte confus, ciblant à la fois les islamistes et les musulmans. Vendredi dernier, l'homme avait écrit au procureur de Dax avec copie au journal Sud-Ouest, annonçant son intention de porter plainte contre Emmanuel Macron, une lettre xénophobe, selon le quotidien, qui a choisi de ne pas en publier le contenu.
Et depuis hier, la classe politique condamne à l'unisson cette attaque. Cet attentat, précise Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste français, explique pourquoi il n'hésite pas à employer ce mot.
Attentat, c'est comme ça que je qualifie ce qui s'est passé à Bayonne. Quand on utilise une arme pour attenter à la vie avec un projet politique derrière, quand ça vient de la part d'un cadre du Front National de l'extrême droite, ex-Front National, cadre quand même dans ce parti, candidat aux élections, cela peut être qualifié d'un attentat, qu'il soit encore ou pas membre de l'extrême droite. Et à force de libérer la haine, à force de la laisser s'exprimer dans les médias avec Zemmour, ou au sein de l'Assemblée nationale, parmi des responsables politiques d'extrême droite, eh bien la haine, eh bien elle s'exprime. Et voilà ce qui se passe. C'est ça qui est dangereux.
Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Le président Emmanuel Macron, qui recevait hier matin à l'Élysée les représentants du Conseil français du culte musulman, a condamné, je cite, avec fermeté l'attaque odieuse, affirmant que la République ne tolérera jamais la haine. Nous y reviendrons dans le journal de 8h de France Culture avec Clara Lecoq-Réal. Les propositions d'action pour lutter contre les violences conjugales sont rendues publiques aujourd'hui. Les différents groupes de travail qui se réunissaient dans le cadre du Grenelle contre les violences faites aux femmes en ont formulé 65. Parmi elles, on peut citer le renforcement des formations initiales et continues des forces de l'ordre, mais aussi la réquisition des armes à feu dès la première plainte. Le Grenelle se poursuit jusqu'au 25 novembre prochain. La journée d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier à la gare Paris-Montparnasse. Un TGV sur trois devrait circuler sur l'axe atlantique perturbé pendant ses vacances scolaires. 200 agents de maintenance au sud de Paris continuent leur grève. Une illustration d'un malaise plus profond à la SNCF, Hakim Kasmi.
C'est un véritable bras de fer qui s'est engagé entre les agents du technocentre de Montrouge et la direction de la SNCF. Les syndicats exigent toujours le paiement des jours de grève et une prime de 3000 euros pour reprendre le travail. Une demande rejetée catégoriquement par la direction qui rappelle avoir, pour l'instant, retiré son plan consistant à supprimer 12 jours de congés par an. Un avantage négocié localement il y a de nombreuses années qui ne se justifie plus aujourd'hui, estime-t-elle. Mais au-delà de ce mouvement, il règne un véritable malaise ces derniers mois à la SNCF et l'accident du TER dans les Ardennes a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Car au-delà des mesures de productivité avec la suppression de postes, la réforme ferroviaire ne passe toujours pas chez les agents. Avec la fin du statut de cheminot pour les nouveaux entrants à partir du 1er janvier, tout comme la transformation de l'entreprise en société anonyme ou encore l'ouverture à la concurrence pour les TGV d'ici un an, auxquelles s'ajoutent les négociations actuellement sur les retraites. Autant de chantiers qui ne risquent pas d'apaiser le climat social, d'autant que la fin de l'année s'annonce déjà compliquée avec un appel à la grève prévu le 5 décembre, appel qui pourrait être reconductible.
Hakim Kasmi du service économie de France Culture, la direction de la SNCF espère donc un retour à la normale à la fin des vacances. Un rassemblement est prévu cet après-midi devant le siège de la SNCF à Saint-Denis. Les députés s'apprêtent à voter aujourd'hui le projet de budget de la sécurité sociale pour 2020. Après une semaine de débats, la situation des hôpitaux a été particulièrement discutée dans un contexte social tendu et l'attente d'un plan de soutien annoncé par l'exécutif. Ce projet prévoit un déficit de 5,1 milliards d'euros l'an prochain avec une progression des dépenses de santé limitée à 2,3%. Mardi dernier, c'est le volet recettes du budget de l'État qui a été adopté à une large majorité.
Quelle heure est-il ? Il est 7h06 sur France Culture et c'est la suite du journal de Margot Delpierre, Boris Johnson. Et dans l'impasse.
Les 27 pays de l'UE ont donné hier leur feu vert à un nouveau report de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne qui pourrait désormais avoir lieu le 31 janvier au lieu du 31 octobre. Dans la même journée, les députés britanniques ont rejeté un texte convoquant des législatives anticipées en décembre. Le Premier ministre, Boris Johnson, qui espère retrouver une majorité capable de le soutenir, s'apprête aujourd'hui à recommencer en utilisant tout l'arsenal législatif à sa disposition parce qu'il joue désormais sa survie politique, Antoine Gignot.
À trois reprises, le Premier ministre a tenté de dissoudre le Parlement. À trois reprises, il a échoué. Pour déclencher des élections, il lui faut le soutien des deux tiers des députés et il en est très loin. Hier, 299 élus ont voté en faveur des législatives anticipées. Il en aurait fallu 434. Pour éviter la débâcle, Boris Johnson change donc de stratégie. Il dépose à la Chambre des communes un projet de loi uniquement consacré à l'organisation d'un scrutin. Ça n'a jamais été fait, mais ce n'est pas illégal et le texte pourrait passer avec le soutien de la moitié seulement des députés. Les conservateurs vont voter pour le texte, appuyés peut-être par une partie de l'opposition. Les libéraux démocrates et les indépendantistes écossais espèrent que ces élections législatives aboutiront au final à un deuxième référendum sur le Brexit. C'est donc une alliance des contraires qui pourrait déclencher le scrutin. Reste à s'entendre sur la date, 9 ou 12 décembre, avant ou pendant les vacances des étudiants.
Aux États-Unis, l'enquête en vue de destituer le président Donald Trump franchira une première étape formelle jeudi au Congrès. La Chambre des représentants, où les démocrates sont majoritaires, votera pour la première fois en séance plénière sur une résolution. Elle réaffirme l'enquête en cours et autorise des auditions publiques. Les républicains dénoncent une mascarade, une chasse aux sorcières. C'est au Sénat américain que sera entendu aujourd'hui le directeur général du constructeur aéronautique Boeing. Il doit s'expliquer après les nombreuses défaillances de 737 MAX, défaillances qui ont conduit à la mort de 346 personnes. L'audition se tient un an jour pour jour après l'accident impliquant l'un de ses appareils de la compagnie Lion Air au large de l'Indonésie, Loïc Loury.
Nous avons appris et nous apprenons toujours de ces accidents. Nous savons que nous avons fait des erreurs et nous les corrigeons. Ces quelques mots, Denis Muhlenberg devrait les prononcer dans sa déclaration préliminaire, un peu faible toutefois au regard de la catastrophe humaine et des défaillances déjà observées. Il y a quelques jours, les enquêteurs indonésiens livraient ainsi leurs conclusions suite au crash du 29 octobre dernier, défaut de conception, disent-ils, mais aussi de certification, formation inadaptée des pilotes et performance médiocre de l'équipage. otages. En cause notamment le MCAS, système qui devait empêcher l'avion de partir en piqué. La plupart des pilotes n'en avaient tout simplement jamais entendu parler avant le premier accident. En 2016, pourtant, avant même la mise en service du 737 MAX, deux d'entre eux accusaient le système de ne pas être fiable. Les messages qu'ils ont échangés ont été révélés il y a une dizaine de jours. Et pour ne rien arranger, le régulateur soupçonne désormais Boeing de le lui avoir caché. Des erreurs en cascade, une culture de la dissimulation. Tout cela sera donc au centre de ces auditions qui se poursuivront mercredi à la Chambre des représentants. Le 737 MAX, lui, reste cloué au sol depuis mars dernier.
La correspondance de Loïc Loury aux États-Unis. Sous couvert d'anonymat, un responsable du Pentagone affirme que l'armée américaine a immergé en mer le corps d'Abou Bakr al-Baghdadi. Le chef de l'organisation État islamique s'est fait exploser pendant un raid en Syrie. Le couvre-feu à Bagdad n'a pas empêché les Irakiens de se mobiliser hier soir en créant des embouteillages énormes et en diffusant de la musique sur haut-parleurs. Les étudiants et les écoliers ont hier rejoint le mouvement de contestation. Ils réclament des emplois pour les jeunes qui représentent 60% de la population. 239 personnes ont été tuées et plus de 8000 blessées depuis le 1er octobre selon un bilan officiel. Pour calmer la colère de la population, le président chilien a remanié son gouvernement hier. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, également cousin du chef de l'État, quitte son poste, comme les ministres de l'Économie et des Finances. Quelques heures à peine après ces annonces, des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre dans le centre de la capitale, non loin du palais présidentiel. Toujours du gris et de la pluie aujourd'hui sur une grande partie du pays, annonce Météo France. Attention au vent soutenu sur les rivages de la Manche, en Bretagne et sur les Caps Corses. Le soleil se montrera dans les Hauts-de-France et dans le sud de Hendaye à Nice. Il fait ce matin entre 5 et 7 degrés dans l'est, 10 degrés sur le quart nord-ouest, jusqu'à 15 près de la Méditerranée. Cet après-midi, les températures maximales seront de 10 degrés à Paris et Brest, 11 à Lille, 17 à Grenoble, 20 à Bordeaux et 21 à Marseille.